Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
On vous en parlait juste avant le journal. Dimanche dernier, l'Afrique du Sud a célébré la béatification de son premier martyr. Il a fallu 15 ans d'enquête à l'Église catholique pour béatifier Bénédicte d'Achois, un instituteur assassiné pour avoir remis en cause certaines croyances traditionnelles comme la sorcellerie. Bénédicte d'Achois s'était fait remarquer notamment en s'opposant fermement à l'initiative des habitants de son village qui voulaient consulter un guérisseur traditionnel pour comprendre les échecs répétés de l'équipe de football. Des années plus tard, il avait également refusé de participer à une quête pour payer les services d'un sorcier, supposé de mettre fin aux orages qui frappaient le village. Bénédicte d'Achois avait alors tenté d'expliquer qu'il s'agissait d'un phénomène naturel. Le problème, c'est que ses prises de position contre la sorcellerie et la magie ont fait naître de la rancœur contre lui. Il s'est fait de nombreux ennemis et le 2 février 1990, il fut lynché et battu à mort. Alors à l'occasion de cette béatification, je vous propose durant les 20 prochaines minutes de parler justement du poids des croyances traditionnelles. Certains rituels sont encore très ancrés en Afrique. Alors comment expliquez-vous la persistance de ces croyances? Quel est leur poids dans la vie quotidienne? 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Vos réactions également sur la page Facebook de l'émission. Par exemple, Nanette nous dit: en Afrique, personne ne meurt de sa propre mort. Il faut trouver un coupable, c'est soit le frère, la mère, l'oncle, le père, la tante qui est donc responsable de la mort. Bonjour François.
Bonjour Monsieur Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Libreville, au Gabon, et vous dites que sur place il y a des pratiques qu'il faut condamner.
Mais Juan Gomez, effectivement il y a des pratiques ici au Gabon à condamner parce que nous sommes en 2015, donc le temps moderne court. Donc avoir recours à ce genre de pratiques, de faire pour évoluer, il faut passer à des pratiques occultes, passer à des pratiques mythes traditionnelles. Je dis qu'il faut aller au-delà de ces choses-là, il faut dépasser ces choses-là.
Mais François, excusez-moi, quand vous parlez de pratiques traditionnelles, à quoi pensez-vous exactement ?
Ben, écoutez, je vous prends un exemple simple, c'est devenu monnaie courante au Gabon. C'est par exemple les crimes rituels que vous en avez certainement entendu ça et là, qui font qu'aujourd'hui c'est devenu c'est devenu monnaie courante. C'est-à-dire que pour avoir une ascension sociale, il y a des pratiques que beaucoup de gens font, alors que ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens, par exemple, comme celui qui vous a écrit sur Facebook, c'est fréquent aussi ici. Personne ne peut mourir ici sans qu'on ne voit du côté de la maladie. Il faut toujours aller chercher qui est à l'origine de la mort d'une autre personne. Mmh. Alors que parfois les choses sont simples. La personne en Afrique, Monsieur Juan, il est difficile de voir des gens qui font les bilans de santé chaque fin d'année pour voir est-ce qu'ils se portent bien. Mais des fois, c'est que lorsqu'on découvre la maladie, parfois, il est trop tard, elle est dans un état avancé. Mmh. Après, derrière, on vous dit que c'est un sorcier qui vous a tué, derrière, on vous dit que c'est un frère qui vous a tué, un oncle qui vous a tué.
Ouais. Vous parliez de crimes rituels au Gabon. Bon, c'est vrai que c'est un sujet très sensible hein, dans ce pays, mais par le passé, il n'était pas rare que l'on trouve à la veille des élections, des échéances politiques, que l'on trouve des cadavres sans langue, des organes génitaux, qu'on trouve un cœur ou des yeux qui sont abandonnés à même le sol dans la rue à la veille d'un scrutin électoral. Ce sont des pratiques qui sont dénoncés de plus en plus. Le pays s'est même doté, je crois, d'une législation pour pénaliser davantage tous les prélèvements d'organes, toutes les mutilations qui sont liées justement à la sorcellerie. Vous pensez que la loi sera appliquée?
Excusez-moi d'être sur cette question d'être complètement pessimiste. Pessimiste parce que, regardez là, ce fut une période là, il y a 2-3 ans, c'était devenu récurrent, je vous assure, on vivait dans un traumatisme terrible, où pendant même des audiences au tribunal, des gens étaient nommément cités, mais qui après vivent tranquillement aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la loi va apporter dès lors que, si on ne fait pas attention? d'arrêter même si, imaginez-vous qu'une autre personnalité est citée. Je vous prends un exemple. Il est cité. Est-ce qu'on est sûr que derrière, cette personnalité va être mise à l'écart pendant le, pour suivre le procès ou bien la démarche de, sur les enquêtes?
Oui, puisque la rumeur dit effectivement qu'à la veille des élections, ce sont des candidats aux élections municipales, législatives, voire même à la présidentielle, qui ordonnent ces crimes rituels. François, merci de nous avoir appelé de Libreville. Charlie, bonjour.
Allô, oui, bonjour à la radio internationale.
Vous nous appelez de Douala, vous êtes au Cameroun, et vous dites que les croyances traditionnelles sont encore très présentes au Cameroun.
Les croyances traditionnelles sont encore très présentes au Cameroun, bien entendu, dans le cadre où les gens veulent toujours essayer de faire du mal à leur prochain. Voyez-vous, ce sont des pratiques qui sont parfois juridiquement condamnées, parce que bien entendu, il y a parfois dans des tribunaux où on accuse telle ou telle personne de sorcellerie. Moi, je vous prends un cas très simple. Dernièrement, encore dans un journal, il nous a été révélé que dans l'ouest du Cameroun, je crois qu'à Bafan, où une femme était en plein champ et, curieusement, une foudre est venue lui tomber dessus. Voyez-vous, c'est des pratiques qui sont d'ordre néphamétique essentiellement. Et les gens utilisent ce genre de pratiques pour nuire à leurs semblables. Ici, en Afrique, particulièrement au Cameroun, les gens sont peut-être superstitieux les uns les autres, mais moi profondément, j'y crois. Je n'ai pas encore réellement, personnellement, vécu cette histoire, mais ceux qui sont autour de moi en parle davantage.
Ouais, en tout cas, ce qu'on comprend en vous écoutant, Charlie, c'est que lorsque les gens font appel à la sorcellerie, c'est forcément car il y a une volonté de nuire son prochain. Sur Facebook, Diara nous dit « L'existence de la sorcellerie est une réalité qu'il ne faut pas remettre en cause. En Afrique, chaque individu émane d'un groupe traditionnel et chaque groupe traditionnel a un secret mystique. Alors dire que la sorcellerie est un mythe, c'est du suicide », nous dit cet auditeur. Elisa, bonjour.
Bonjour.
J'ai sous les yeux le courrier électronique que vous nous avez envoyé au début de l'émission. Je peux donner votre nom de famille ?
Très bien.
Puisque oui. Vous êtes certainement connue, vous êtes anthropologue, vous vous appelez Elisa Pellizzari, vous êtes en Italie, vous dirigez les éditions de l'Armatan sur place, et vous avez notamment publié un livre sur les abus et les crimes rituels, un livre édité l'année dernière, et vous vous dites que la sorcellerie et les croyances traditionnelles ne sont pas vouées à disparaître en Afrique.
Oui, c'est plutôt vrai le contraire, c'est-à-dire c'est un phénomène que je lis à la modernité et à la modernisation des pays africains. Bon, je m'occupe notamment de l'Afrique de l'Ouest, mais il faut comprendre que sur place, les rapports sociaux restent essentiellement magiques. C'est-à-dire la présence du monde de l'invisible est toujours là, à côté de la présence du monde que l'on peut appeler du jour, c'est-à-dire le monde de la rationalité, le monde de la technique, de la technologie, etc. Donc ce ne sont pas des phénomènes de peuple, entre guillemets, hors de l'histoire. Ce sont des phénomènes de la modernité, d'une modernité qui peut être mal comprise, mais qui nécessite d'éléments autres pour pouvoir s'affirmer d'une façon qui soit celle que les gens s'attendent, c'est-à-dire la réussite personnelle. Vous parliez tout à l'heure des élections politiques, mais ça peut être aussi la réussite scolaire, la réussite dans le monde des affaires. Ce n'est pas garanti par mes propres mérites et doit être assuré par d'autres façons. Par exemple, le recours au marabout, aux pratiques de maraboutage, donc à la fabrication de fétiches, etc., qui permettrait à l'individu d'accéder là où il pense ne pas réussir à arriver par ses propres moyens.
Oui. Alors justement, je vous interromps, Elisa, et surtout restez en ligne. Je voudrais qu'on accueille Alpha, qui est en Guinée. Bonjour Alpha.
Oui, bonjour Anne.
Vous disiez au Standard que lorsque vous étiez plus jeune et que vous jouiez au football, vous aviez recours au marabout.
Oui, effectivement, à chaque fois qu'on avait un match de football à disputer, on partait voir un marabout ou un féticheur. Et le plus souvent, on nous donnait une eau magique à prendre lorsqu'on s'apprêtait à rentrer dans le terrain de football. Des fois, ça prenait, mais aussi des fois, ça soldait par un échec. Hein.
Et vous étiez convaincu qu'il était nécessaire d'aller voir ce marabout avant le match ?
Non. Non, pas dans notre totale conviction, hein, mais on nous disait de partir chercher un recours auprès des marabouts pour voir si ça peut aller.
Et aujourd'hui, vous continuez à fréquenter le marabout ou pas?
Non, pas du tout. C'est pour vous dire que dès notre jeune âge, on découvre ces croyances traditionnelles et on les pratique à différents niveaux. Maintenant, on est grandi, on a fait l'université avec la technologie, on y croit plus que plus. Mais on ne reste pas dans sa globalité parce que quand on fait recours ou pas, c'est quelque chose qui existe et qui est réel.
Oui. Alors vous dites que vous êtes allé à l'université, vous êtes diplômé, vous avez suivi une formation. Elisa, c'est intéressant ce que nous dit Alpha, puisque vous nous disiez que la sorcellerie c'était encore une présence très moderne et qui n'était pas liée justement à l'ignorance.
Exactement. C'est-à-dire ce qu'a décrit l'interlocuteur qui a parlé tout à l'heure, lui, il a donné une idée presque d'un passage dans son expérience personnelle d'une attitude à une autre. Mais en effet, ce qu'on enregistre normalement, c'est une accumulation de situations différentes. C'est-à-dire, par rapport à la situation que l'individu vit ou va vivre, il adapte ses capacités de réaction et d'action. Donc, une fois ce sera l'hôpital, la fois d'après ce sera le médecin traditionnel. C'est-à-dire, les choses peuvent passer d'un registre à l'autre selon le moment et selon l'occasion. Donc, il n'y a pas une barrière nette entre les deux. Ça peut paraître étrange, mais les deux univers, disons l'univers mystique et l'univers rationnel, cohabitent dans la tête des gens. Ouais.
Alpha, vous souhaitez rajouter quelque chose en Guinée?
Oui, effectivement, c'est pour dire que les croyances traditionnelles sont là et elles existent au quotidien parce que nous avons vu avec Ebola ici, les gens qui attrapaient Ebola préféraient partir voir les marabouts au lieu de partir dans les hôpitaux.
Ouais. Oui, c'est-à-dire que ces guérisseurs sont en partie responsables de l'ampleur qu'a pris l'épidémie d'Ebola. C'est vrai que beaucoup de gens à l'échelle guérisseur plutôt que d'aller dans des hôpitaux pour être soignés. Alpha, merci de cette réaction de Guinée. Elisa, merci d'écouter RFI en Italie. Vous êtes à Rome, j'imagine? À Turin, d'accord, autant pour moi. Bah, merci à vous et bonne continuation. 33 9 693 693 70. Aimé, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Alors, je vois sur ma petite fiche, pardon, que il vous arrive parfois de pratiquer des rituels.
Voilà. Moi, par rapport à la béatification de Bénédicte d'Assois, je suis un peu perplexe et un peu perturbé. Pourquoi? Parce que je veux reconnaître ici que la béatification faite par l'Église catholique est une béatification à tête chercheuse. Ici, il vient simplement magnifier l'action d'un homme qui aura fait la publicité de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que Bénédicte d'Assois a dit une pratique X ou Y n'est pas bonne pour nous, n'est pas bonne pour l'Église, on le béatifie. Je vais continuer, je vais insister un peu en vous disant également, ça on le remarque beaucoup avec l'Église catholique, qui par exemple va aller mettre chez quelqu'un parce qu'il apporte beaucoup d'argent à l'Église, va aller mettre une statue de la Vierge Marie qu'on aura bénie et qu'on viendra souvent bénie. Bon, maintenant pour parler du cas...
Donc ça veut dire quoi que c'est l'ignorance de la culture de l'autre que vous pointez du doigt?
Oui,
c'est-à-dire vous reprochez à l'Église catholique d'ignorer finalement une partie de la culture africaine, et on parle de l'Afrique, mais il n'y a pas que l'Afrique évidemment qui a recours à l'occultisme, à la sorcellerie. Le phénomène existe aussi en Asie et j'imagine aussi en Amérique latine. Mais ce qui m'intéresse aussi, Aimé, c'est parce que vous l'avez dit au standard, je n'invente rien. Vous disiez pratiquer de temps en temps certains rituels.
Oui, j'ai dit que je fais partie d'une culture où on pratique des rituels. Je vais vous décrire par exemple un rituel qui est très méconnu, pas méconnu de l'Église, parce que l'Église la connaît, l'Église la pratique de manière épurée, mais fait croire aux populations ignorantes que c'est de la sorcellerie. C'est un rituel qui se pratique dans l'ouest du Cameroun. Oui. Quand vous avez un de vos proches qui est décédé, des années plus tard, on fait un rituel qu'on appelle les funérailles, et après ces funérailles, on retire les crânes que l'on met dans une maison de crânes, et les prêtres de la religion traditionnelle peuvent venir prier auprès de ces crânes oui. pour demander à ces crânes d'intercéder auprès de Dieu.
D'accord.
Sauf que l'Église, pendant de nombreuses années, fait croire aux populations ignorantes que cette population de l'Ouest adore les crânes, ce qui est faux. Mmh. Aucune population de l'Ouest adore les crânes. Par contre...
Simplement, le crâne dans votre tradition, excusez-moi, aimé pour aller vite, et en même temps, il y a beaucoup de réseaux d'écho là où vous êtes, le crâne permet à ceux qui y croient d'être, on va dire, en contact avec les morts. C'est bien ça?
Oui,
voilà,
c'est
d'accord. Aimé, je vous interromps, on a d'autres auditeurs, c'est un sujet qui suscite beaucoup de réactions au standard. Merci à vous, bonne journée à Bordeaux. Mokhtar, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan.
Vous êtes en Mauritanie et vous souhaitez nous livrer un témoignage.
Effectivement. Bon, moi je disais que effectivement la sorcellerie c'est quelque chose qui existe. Et donc parce que moi j'ai été vraiment victime, je me rappelle dès mon jeune âge, j'avais 17 ans, j'avais victime d'une sorcellerie et je me dormais pratiquement pas. J'étais élève en ce moment au lycée de Rousseau. Et ma mère est venue me voir parce que elle est venue à mon secours parce qu'elle entendait que je ne dormais plus. J'ai veillé pendant au moins 17 jours pour un élève. J'avais donc vraiment des problèmes.
Donc vous êtes resté plus de 2 semaines sans dormir. Comment saviez-vous que vous étiez j'essaie de comprendre, Mokhtar. Comment saviez-vous que vous étiez victime de sorcellerie?
Voilà, parce que comment j'étais victime, parce que je ne dors plus. Moi, je dormais normalement, comme tout individu normal. Et je me rappelle, j'ai été dans un village où je ne peux pas citer vraiment pour des raisons personnelles. Et on me disait, ben écoute, il faut pas se rendre là-bas. Et j'ai dit à mes élèves, mes amis, je vais y aller. Et je suis parti. Et je savais donc ce qui m'attendait. Donc j'ai été, je suis revenu en ville. Et depuis ce jour-là, je ne dormais plus. Mmh. J'ai fait 2 semaines où je ne dormais pas. Et ma mère est venue donc à mon secours, parce qu'elle attendait que son enfant était malade, comme toute autre mère, et elle est venue et elle m'a amené à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est à 100 km de Rousseau. Et donc, lorsqu'elle m'a amené, elle m'a amené juste chez un marabout. Donc on est venu, elle lui a dit, bon écoute, mon enfant ne dort plus. Il a dit, il y a 2 solutions. Il m'a mis une poudre dans le nez et il lui disait, donc s'il toussait, ce qui veut dire qu'il est normal. Mais s'il ne tousse pas, s'il tousse, il n'est pas
donc malade. Vous avez pris cette poudre et vous avez été soigné grâce à ce marabout.
Parce que depuis ce jour-là, il m'a donné une poudre, je me suis enveloppé avec, j'ai absorbé, si tu veux, cette poudre, par la fumée, bien sûr, et juste après, je me suis endormi 36 heures, je me rappelle très bien, 36 heures. Mmh. Je me suis réveillé, je mourais de faim, j'ai dit à ma mère, mais écoute, donne-moi à quoi manger. Ouais. J'ai mangé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que manger? Qu'est-ce que j'avais? Elle me disait, non, il n'a rien. Et depuis lors, depuis ce jour-là, moi, je suis ici d'une famille moderne, africaine, mais moderne, bien sûr. Donc, mon père n'y croyait pas.
Ouais.
Et elle m'a amené à l'insu de mon père, parce que mon père était un technicien de santé à l'époque, qui équivalait à un médecin. Donc, il ne croit pas à ses sorts.
Ouais. Et finalement, il y a cru, grâce ou à cause de ce qui vous est arrivé. Merci Mokhtar de ce témoignage. Il y avait d'autres témoignages au standard, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce phénomène vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi vous commentez l'actualité de votre choix. Demain, en tout cas, nous lancerons le débat sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez que de plus en plus de voix plaident pour une réforme de cette instance. Ses détracteurs lui reprochent surtout de ne pas être suffisamment représentatif du monde d'aujourd'hui. Et parmi ses détracteurs, il y a le président sud-africain, Jacob Zuma, estime qu'il est inconcevable que le continent africain où vivent aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes ne soit pas mieux représenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous rappelle qu'aucun pays africain n'est membre permanent du Conseil. On en parle ensemble demain. D'ici là, évidemment, vous pouvez vous inscrire. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Je vous souhaite une belle journée.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Money, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.
Et dans 10 minutes, vous allez retrouver, comme tous les matins, Claire et